Audiolib présente Fondation, le cycle de Fondation, tome 1, d'Isaac Asimov. Traduit de l'anglais par Jean Rosenthal et Philippe Gindre. Lu par Stéphane Ronchevski. Note de l'éditeur. La présente traduction de Jean Rosenthal a été revue, complétée, il manquait l'équivalent de 36 pages, et harmonisée par Philippe Gindre en 2006 pour les éditions de Noël à partir de l'édition américaine, corrigée et définitive, de Bantam Books, parue en 1991. Certaines phrases, dans les articles de l'Encyclopédia Galactica, sont laissées incomplètes, selon l'intention de l'auteur. En mémoire de ma mère, 1895-1973. Première partie, les psychohistoriens. Chapitre 1. Harry Seldon. Né en l'an 11988 de l'ère galactique. Mort en 12069. Harry Seldon est donc né en moins 79 de l'ère de la Fondation. Et décédé en l'an 1 de cette même ère, si l'on se réfère, comme on le fait d'ordinaire, au calendrier actuellement en vigueur. Né de parents issus de la petite bourgeoisie d'Helicon, secteur d'Arcturus, planète où son père, à en croire une légende d'authenticité douteuse, aurait été planteur de tabac dans une exploitation d'hydroponique, il manifesta très tôt de remarquables aptitudes pour les mathématiques. D'innombrables anecdotes circulent à ce sujet. Elles sont parfois contradictoires. On dit ainsi qu'à l'âge de 2 ans, il a... C'est sans aucun doute au domaine de la psychohistoire que Harry Seldon a apporté sa contribution la plus remarquable. Partant d'un ensemble d'axiomes approximatifs, il a laissé une science statistique aux bases inébranlables. La source biographique la plus fiable dont nous disposons à son sujet est sans conteste la biographie due à Gal Dornick, lequel fit la connaissance du grand mathématicien 2 ans avant sa mort. L'histoire de cette rencontre, Encyclopédia Galactica. Toutes les citations de l'Encyclopédia Galactica que nous reproduisons, avec l'aimable autorisation des éditeurs, sont tirées de la 116e édition. Terminus, société de publication de l'Encyclopédia Galactica, en l'an 1020 de la Fondation. Gal Dornick, car tel était son nom, n'était encore qu'un jeune homme fraîchement débarqué de sa planète natale. Un provincial qui n'avait même jamais vu Trentor, du moins pas de ses propres yeux. Bien des fois, par contre, il avait eu l'occasion de contempler la planète à l'hypervidéo. D'autres fois, un peu moins souvent, en regardant les actualités en 3D, fasciné par le formidable impact visuel de ces images, il avait assisté à un couronnement impérial ou à l'ouverture d'un concile galactique. Bien qu'il eût passé jusque-là toute son existence sur Synax, une planète en orbite autour d'une étoile située aux confins de la nébuleuse bleue, Gal Dornick n'était pas totalement coupé du reste de la civilisation. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, dans la galaxie, nulle planète ne l'était vraiment. La galaxie comportait alors près de 25 millions de mondes habités. Et pas une seule de ces planètes n'échappait à l'autorité de l'Empire, dont le siège se trouvait alors sur Trentor. Un demi-siècle plus tard, les choses auraient déjà bien changé. Pour Gal, ce voyage représentait l'apogée espérée et attendue de sa courte vie d'étudiant. Il avait déjà voyagé dans l'espace, de sorte que cette traversée ne représentait pour lui guère plus que ce qu'elle était, un trajet comme un autre. Certes, il ne s'était encore jamais aventuré au-delà de l'unique satellite de Synax, où il lui avait fallu aller recueillir des informations nécessaires à la rédaction de sa thèse, en l'occurrence, des données sur la dérive des météores. Mais tous les voyages spatiaux se ressemblaient en fin de compte, qu'on parcourût 1 million de kilomètres ou 1 million d'années-lumière. Au moment du saut dans l'hyperespace, il s'était juste un peu raidi, appréhendant un phénomène qu'on n'avait pas l'occasion d'expérimenter au cours de simples voyages interplanétaires. Le saut demeurait, et demeurerait sans doute à jamais, le seul moyen véritablement opérationnel de voyager d'étoile à étoile. Puisqu'il était impossible de se déplacer dans l'espace ordinaire à une vitesse supérieure à celle de la lumière ordinaire, c'était là un de ces principes scientifiques vieux comme le monde dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. Rallier un système habité, fût-ce le plus proche, eût demandé plusieurs années d'efforts. En empruntant l'hyperespace, cette inconcevable dimension qui n'était ni espace, ni temps, ni matière, ni énergie, et qui existait sans exister vraiment, il était par contre possible de parcourir la galaxie d'un bout à l'autre en une fraction de seconde à peine. Gall avait attendu le premier de ses sauts avec une légère appréhension levée au creux de l'estomac. Il n'éprouva finalement qu'une infime secousse, un très léger choc tout au fond de son être, et qui avait déjà cessé avant même qu'il pût être sûr de l'avoir véritablement ressenti. L'instant d'après, tout était déjà terminé. Après cela, son attention se focalisa tout entière sur le vaisseau, sur cette grande machine étincelante, fleuron de la technologie impériale, fruit de 12 000 ans de progrès. Mais il songea aussi à lui-même, à son tout récent doctorat de mathématiques, sans oublier l'invitation du grand Harry Seldon en personne à se rendre sur Trantor pour y participer aux ambitieux travaux du mystérieux projet Seldon. Déçu par le saut, Gall n'avait désormais plus qu'une hâte, contempler Trantor. Il ne quittait pour ainsi dire plus la salle d'observation. À chaque fois que les panneaux d'acier coulissaient, comme annoncé, Gall était présent au rendez-vous, prêt à admirer l'éclat implacable des étoiles, le spectacle incroyable et diffus d'un amas stellaire semblable à un gigantesque essaim de lucioles pétrifié en plein vol et figé à jamais. Il eut même une fois l'occasion de voir, à moins de 5 années-lumière du vaisseau, le nuage froid d'une nébuleuse gazeuse au reflet d'un blanc bleuté qui s'étalait devant le panneau transparent de la salle d'observation, telle une traînée de lait infiniment lointaine, emplissant la pièce tout entière d'une lueur glaciale, avant de disparaître à sa vue 2 heures plus tard, après qu'un nouveau saut eût été effectué. Le soleil de Trantor, lorsqu'il le vit pour la première fois, lui apparut sous la forme d'un point blanc brillant perdu au milieu d'une myriade d'autres points semblables, et il ne le reconnut que parce que le guide du vaisseau le lui désigna comme tel. Ici, à proximité du centre de la galaxie, les étoiles formaient un amas compact, mais à chaque saut, ce soleil brillait davantage, finissant par éclipser peu à peu les étoiles environnantes. Un officier de bord entra et annonça à la cantonade « Nous allons procéder à la fermeture de la salle d'observation. Elle restera fermée jusqu'à la fin de notre voyage. Préparez-vous à l'atterrissage. » Gall l'avait suivi aussitôt, s'accrochant à la manche de son uniforme blanc qui s'ornait de l'insigne impérial aisément reconnaissable, l'astre au vaisseau. « J'aimerais rester, » dit-il. « J'aimerais voir Trantor. » L'officier eut un sourire. Gall sentit qu'il commençait à rougir. Son fort accent provincial venait vraisemblablement de le trahir. « Nous nous poserons sur Trantor dans la matinée, » ajouta l'officier de bord. « Oui, mais c'est que j'aimerais voir la planète depuis l'espace, vous comprenez ?»« Désolé, mon gars. Avec un vaisseau de plaisance, on pourrait sans doute y arriver, mais là, nous avons déjà entamé la descente, phase diurne. Tu voudrais te retrouver aveugle, brûlé et irradié par-dessus le marché ? Non, hein ?» Gall gagnait déjà la sortie lorsque l'officier de bord lui lança « De toute façon, tout ce que tu verrais de Trantor, ce serait du gris. Du gris tout flou. Va donc dans une agence de tourisme. Une fois que tu seras sur place, et paie-toi un petit voyage stratosphérique, c'est pas cher du tout, tu sais. » « Merci du conseil, » lui répondit Gall en se retournant une dernière fois. Une telle déception avait quelque chose d'incontestablement puéril. Mais ce type de comportement affecte tout aussi facilement les enfants que les adultes, et Gall avait bel et bien la gorge serrée. Jamais encore il n'avait eu la chance de pouvoir contempler Trantor dans toute sa splendeur, grandeur nature. Il s'était préparé à bien des choses, mais pas à devoir attendre encore pour jouir de ce spectacle.